Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le retour des panneaux 90 km/h. Ça n'est pas impossible. 6 mois après le passage à 80 sur les routes secondaires, on parle de plus en plus d'aménager cette mesure, alors qu'Édouard Philippe présentera aujourd'hui le bilan de la sécurité routière. Les Français et leurs voitures. Elle en avait beaucoup parlé, Jacqueline Mourot. Se lance en politique, elle crée son parti dans une logique de dialogue avec le pouvoir. Des gilets jaunes avec la CGT la semaine prochaine, manifestation commune le 5 février à 8h20, le premier des gilets rouges au micro.
Oui, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, dans le grand entretien du 7-9, vous pourrez dialoguer avec lui au 01 45 24 7000.
Deux hommes à terre samedi, gravement blessés au visage pendant des manifestations de gilets jaunes, Jérôme Rodriguez à Paris, un militaire en permission à Montpellier, des tirs de LBD suspectés, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur doit démissionner, martèle Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. À la une également, une pensée pour nos amis de France Bleu Isère. Ce matin, leurs locaux ont été incendiés, incendie criminel. Cette nuit, pas de programme de France Bleu là-bas. Les studios sont partis en fumée. Nous serons avec eux en direct tout à l'heure. La solitude des enfants placés, comment ne pas obérer leur avenir, des pistes annoncées aujourd'hui. Et puis les Dandy Warhols, vous connaissez? Si oui, réjouissez-vous. Ils sortent un 10e album. Sinon, réjouissez-vous aussi, vous allez les découvrir.
France Inter.
On en parle comme de la genèse du mouvement des gilets jaunes. Les Français obligés de freiner sur les routes secondaires, 80 km/h maximum. Depuis le 1er juillet et la mise en place de cette limitation de vitesse, combien de radars détruits, combien de récriminations et de débats au sein même du gouvernement. Alors aujourd'hui, c'est l'heure du bilan 2018 de la sécurité routière. Édouard Philippe est attendu au tournant, Laurent Sénéchal. Cette mesure à laquelle il tient tant pourrait bien être aménagé.
Emmanuel Macron ne fait pas du 80 km/h un totem, mais le président juge tout de même cette mesure courageuse. Il l'a redit hier soir au Caire, comme il y a quelques jours, à un retraité dans la Drôme.
Le gouvernement a pris cette décision, parce que des experts ont dit que c'était efficace. Et c'est vrai, hein ? Je pense que c'était courageux de faire ça. Après, ce qui est vrai, c'est que selon le terrain, il y a des routes. J'étais la semaine dernière dans le Lot. Il y a plein de routes qu'on a remis à 80, c'est impossible de rouler à 70. Donc, c'était peut-être pas la peine. Il y en a d'autres. On peut dépasser, c'est pas risqué. Donc, il faut peut-être donner de la souplesse sur les... au plus près du terrain, vous avez raison.
En privé, Emmanuel Macron parle même de conneries au sujet de cette mesure. C'est l'entourage de Laurent Wauquiez, patron du parti Les Républicains, qui le dit. Le chef de l'État aurait utilisé ce mot dans le tête-à-tête entre les deux hommes à Valence. Édouard Philippe doit maintenant trouver le moyen de ne pas perdre la face. Une députée proche du Premier ministre estime que les ajustements que prépare Emmanuel Macron sont logiques. Il fallait mettre en place les 80 km/h partout pour reculer ensuite par endroits après évaluation. Le contraire n'était pas possible. Pour Édouard Philippe, ce ne serait pas l'affront de sa vie, dit-elle, manière pour le camp du Premier ministre de le présenter en vétéran qui en a vu d'autres.
Et certains se préparent déjà à ressortir leurs panneaux 90. Si aménagement, il y a le président de la Côte d'Or, François Sauvadet, prévient déjà dans le Parisien aujourd'hui en France que seuls 20% des routes de son département resteraient à 80 km/h. Les autres repasseront à 90. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Demandait Jacqueline Mourot dans sa vidéo au mois de novembre au sujet des contraventions infligées aux automobilistes. La Bretonne, qui fait partie des gilets jaunes historiques depuis 11 semaines, a décidé de passer au stade politique. Elle lance son parti, les émergents, pour en finir avec les manifestations et dialoguer avec l'État. Voilà la posture adoptée hier en présentant sa ligne à Orléans, Cyril Ardo.
À l'occasion de cette présentation, ni elle ni aucun des membres ne portait le gilet jaune.
C'est un parti qui ne s'adresse pas qu'aux gilets jaunes. C'est un parti qui s'adresse à tout le monde. Il s'adresse aussi, par exemple, à tous les commerçants qui m'ont écrit qui n'en peuvent plus. Et aussi, et je le regrette, à toutes ces personnes qui ont perdu leur travail à cause du mouvement.
Jacqueline Mourot affirme sa volonté de rassembler, d'être ni de droite ni de gauche, et a détaillé pendant une dizaine de minutes ses principales propositions. Baisser la TVA sur les produits de première nécessité et l'augmenter sur les produits de luxe. Elle réclame plus de personnel dans les EHPAD, veut sanctuariser les retraites et se dit également écologiste. Enfin, elle veut dialoguer avec Emmanuel Macron.
Nous ne souhaitons pas sa démission parce que je ne vois pas par qui on le remplacerait. Aujourd'hui, il n'y a personne pour le remplacer. Donc il vaut mieux manager avec le président que tout foutre en l'air. Ça, c'est notre point de vue. Maintenant, il faut impérativement que le président, à la suite du grand débat, prenne des décisions concrète.
Mais elle le sait, elle est une figure très controversée au sein même du mouvement des Gilets jaunes.
Ça veut dire qu'au moins j'apporte quelque chose, peut-être que je dérange.
Ça vous fait pas peur ?
Pas du tout.
Après les annonces, il va falloir se mettre au travail. Les émergents ont notamment prévu d'organiser des réunions un peu partout en France dans le cadre du grand débat national.
Cyril Ardoux de France Bleu, Orléans, un colosse à terre, géant barbu, en gilet jaune. Le visage de Jérôme Rodriguez, défiguré, fait la une depuis samedi, blessé à Paris pendant la manifestation hebdomadaire des Gilets jaunes. Il parle d'un tir de LBD, le ministère de l'Intérieur conteste, et c'est la police des polices qui devra trancher. En attendant, Laurence Perron, la France Insoumise réclame la démission de Christophe Castaner.
On se souvient de Jean-Luc Mélenchon lors de l'examen de la motion de censure du gouvernement en décembre dernier, faisant respecter une minute de silence pour les 6 morts sur les barrages. Aujourd'hui, selon le décompte lancé par le documentariste David Dufresne sur Twitter, avec ce hashtag « Allô Beauvau, c'est pour un signalement », selon ce décompte, 337 signalements, un décès, 151 blessures à la tête, 4 mains arrachées, 18 éborgnés, dont Jérôme Rodriguez. Le coupable pour le leader de la France Insoumise, c'est lui.
Le ministre Castaner est incapable de faire face à l'organisation de la paix publique.
Et donc,
il doit s'en aller.
Le ton monte donc avec le ministre de l'Intérieur. La semaine dernière, le député du Nord, Hugo Bernalicis, avait déjà réclamé la comparution de Christophe Castaner devant la Cour de justice de la République pour entrave à la liberté de manifester. Là, il enfonce le clou, réfutant par avance la thèse d'une bavure.
Enfin, on nage en plein délire. Il y a un responsable politique quand même dans tout ça. Celui qui décide que ses armes peuvent être engagées, il s'appelle Christophe Castaner, il doit en répondre et il doit démissionner.
La France Insoumise défendra mardi à l'Assemblée nationale un amendement dans le cadre de la loi anti-casseurs pour faire interdire notamment le lanceur de balles de défense dit LDB-40 ou encore les grenades de désencerclement Glief 4.
Et au moins un autre blessé ce samedi à Montpellier, un militaire en permission, manifestement touché par un tir de LBD à la tête. Il passait dans la rue à proximité des chauffourées entre des casseurs et les forces de l'ordre.
Et sur ce sujet et tous les autres que vous souhaitez aborder, je vous rappelle qu'Edouard Philippe sera l'invité d'un téléphone sonne spécial ce mercredi sur Inter. 2 heures de débat en direct de 19h à 21h. Question que vous pouvez poser dès à présent sur l'application France Inter et sur les réseaux sociaux. Le standard, vous en connaissez le numéro 01 45 24 7000. 8h07, direction Grenoble maintenant, Florence, où la radio locale de Radio France n'émet plus ce matin.
France Bleu Isère n'a plus de studio et plus de bureaux. Ces locaux ont été ravagés par un incendie cette nuit. Léopold Strajnik, bonjour, vous êtes rédacteur en chef de la station.
Bonjour.
Une station d'autant plus choquée, Léopold, qu'on parle ce matin d'un incendie criminel.
Oui, ça ne fait aucun doute, Florence. La porte d'entrée de la radio a été fracturée et les pompiers nous ont confirmé qu'il y avait bien 2 départs de feu simultanés au rez-de-chaussée de la radio. Donc voilà, l'incendie volontaire ne fait aucun doute. Les dégâts sont considérables ce matin. On découvre d'ailleurs depuis quelques minutes ces dégâts parce que le soleil s'est levé. Le matériel informatique a littéralement fondu. Les murs sont noirs de suie. Il est évident que tout le matériel qui nous permet, les infrastructures qui nous permettent de faire de la radio ont été endommagées et que ça prendra beaucoup, beaucoup de temps avant qu'on puisse émettre à nouveau ici depuis nos studios de l'avenue Félix Vialet.
Alors pas de matinale ce matin, pas de programme avant un bon moment. Comment est-ce que vous envisagez la suite ?
Alors, on envisage quand même assez rapidement de pouvoir émettre. Depuis ce matin, nos auditeurs entendent les programmes de France Bleu Pays de Savoie, la station voisine à Chambéry, une station qui fait une large place à cet événement et on intervient régulièrement sur leurs antennes. Nos auditeurs d'ailleurs nous témoignent leur sympathie sur l'antenne de France Bleu Pays de Savoie. Et puis vous savez, la radio, on fait régulièrement tout au long de l'année des émissions en extérieur, donc on va se configurer une émission en extérieur assez rapidement pour pouvoir reprendre l'antenne dans cette épreuve qui nous est qu'on est en train de vivre là aujourd'hui. La seule satisfaction, c'est qu'effectivement, depuis ce matin 6h, on n'a jamais coupé complètement le lien avec nos auditeurs.
Léopold Strajnik, merci, rédacteur en chef de France Bleu Isère, détruite par un incendie criminel dans la nuit. Pensée confraternelle, Léopold, à toute la station. Pour ces enfants, c'est la double ou la triple peine. Ils sont presque 200 000 à être placés par la protection de l'enfance, victimes dans leur famille. Leur sort ne s'améliore hélas pas toujours en foyer d'accueil. Et que deviennent-ils ensuite ? En ensuite, eh bien, un quart des sans-abri, pour vous donner une idée, sont d'anciens enfants placés. C'est pour remédier à ces carences de la prise en charge qu'un secrétaire d'État à la protection de l'enfance a été nommé vendredi, qui doit aujourd'hui, Adrien Toffolet, présenter les grandes lignes de sa stratégie.
En Seine-Saint-Denis, jusqu'à 18 mois d'attente pour qu'un enfant soit suivi régulièrement. Les juges pour enfants tirent la sonnette d'alarme. Dans le Nord, l'année dernière, 700 places en foyer supprimées, des éducateurs dans la rue. Édouard Philippe parlait vendredi de corriger des dysfonctionnements, mais pour les associations, c'est tout le système existant qui est à moderniser. Depuis des mois, elles demandent du concret, améliorer l'évaluation des situations de danger pour que les enfants en situation de maltraitance soient mis à l'abri plus vite, leur donner une prise en charge médicale et psychologique à 100%, Agnès Buzyn est pour, mieux former et impliquer tous les acteurs aux problématiques de l'enfance, éducateurs, magistrats, assistants sociaux, médecins. Tout ceci devrait déjà être permis par la loi Rossignol, votée en 2016, mais la réalité est bien différente. État et département se renvoient la responsabilité. Le premier dit découvrir les dysfonctionnements, les seconds dénoncent les baisses des dotations, le manque de moyens. Ce matin, les associations de protection de l'enfance attendent non seulement des annonces du gouvernement, mais surtout des garanties urgentes que les dispositifs seront appliqués.
Un voyage loin de Paris et des crises actuelles après le temple d'Abou Simbel et ses monumentales statues de Ramsès II hier. Emmanuel Macron a rendez-vous avec le président égyptien Al-Sisi pour signer des contrats et parler franchement des droits de l'homme, promet le président. Pas de grand débat en Égypte, mais des opposants, des journalistes, des homosexuels et des féministes en prison. Au Venezuela, c'est sûr, la semaine sera très tendue. Le président autoproclamé Juan Guaido appelle à deux nouvelles manifestations contre Maduro mercredi et samedi, alors que la France et cinq pays d'Europe ont laissé jusqu'à dimanche prochain au président en place pour organiser des élections, sans quoi ils reconnaîtront Guaido, comme l'ont déjà fait les États-Unis et une bonne partie du continent américain. Ultimatum balayé par Nicolas Maduro pendant que des milliers de Vénézuéliens continuent à fuir le pays et ses pénuries. À la frontière colombienne, notre envoyé spécial a rencontré ces exilés qui manquent de tout et notamment de soins. Reportage signé Nathanaël Charbonnier.
Il est des images qui marquent les cœurs plus que d'autres. Celles de l'afflux de Vénézuéliens malades qui traversent la frontière à Cucuta en font partie. Comme Ismaël qui arrive en boitant avec ses béquilles. Alors Ismaël explique qu'il vient ici à Cucuta pour trouver des médicaments car au Venezuela, il n'y en a pas. En plus, chez lui, c'est très difficile de gagner sa vie. Alors il vient ici pour pouvoir manger et se soigner. Sergio Alacorn est le responsable de la sécurité civile qui accueille les personnes en difficulté. Il décrit une situation qui empire.
Ici, il y a un centre médical. Les Vénézuéliens qui arrivent ont beaucoup de problèmes de santé. On reçoit notamment beaucoup de femmes enceintes.
Et si Sergio Alacorn parle des femmes enceintes, c'est parce qu'au Venezuela, elles sont peu suivies. Alors il faut marcher et traverser la frontière pour se faire ausculter. Comme cette jeune Nancy, elle a 19 ans. Nancy explique qu'au Venezuela, il n'y a pas de prise en charge des femmes enceintes. Mais ce qui l'inquiète aussi, c'est d'être bloquée à la frontière, de ne pas pouvoir passer et de devoir accoucher chez elle. Car Nancy n'oublie pas que l'année dernière, elle a fait une fausse couche à 5 mois de grossesse parce que j'étais sous-alimentée, dit-elle. À Cucuta, Nathanaël Charbonnier, Gilles Gallinaro, France Inter.
Le Brésil, suspendu à l'état de ses barrages du Minas Gerais, l'un d'entre eux a rompu vendredi, tué au moins 58 personnes. Un second menacé de lâcher hier. L'armée affirme que la situation est désormais sous contrôle.
8h13, Florence, bientôt des assistants pour les médecins.
Mais oui, c'est l'une des annonces phares du plan santé qui doit permettre aux généralistes de se décharger d'un certain nombre de tâches basiques pour pouvoir soigner plus de patients dans les déserts médicaux. Alors des négociations sont en cours, Véronique Julia, pour définir les missions et les rémunérations de ces super secrétaires.
Deux questions essentielles à trancher. Qui va payer et quel profil auront précisément ces assistants? Le syndicat MG France a chiffré à 50 000 euros à peu près le coût annuel que représenterait une embauche. Sachant que la recette annuelle d'un cabinet généraliste tourne autour des 120 000 euros, il faut que l'assurance maladie assume la dépense, dit-il. En contrepartie, le médecin s'engagerait non pas à faire plus de consultations chaque jour, mais à suivre davantage de patients en tant que médecin traitant. Ça éviterait d'en refuser, comme ça arrive désormais si souvent. rappelle Jacques Battistoni, le président du syndicat MG France.
Les relations avec la population deviennent tendues. Ils sont pris entre eux. Je peux décemment pas travailler plus au risque d'être en burn-out. Certains le sont d'ailleurs. Et puis la population qui dit mais c'est pas possible que j'ai pas un médecin.
En Allemagne ou aux États-Unis, l'assistant médical qui existe déjà depuis longtemps peut faire jusqu'à des pansements, des sutures ou des prises de sang. En France, on n'ira sans doute pas jusque-là, mais sa fonction serait large. Explication des traitements, gestion du dossier médical, préparation à l'examen, réception des appels et conseils, des démarches qui peuvent être très chronophages.
Le fait de bien noter les antécédents d'un patient, il y a comme ça beaucoup de choses qui sont délégables.
Vous passez combien de temps par jour à faire des choses comme ça ?
2 heures au moins.
Il est envisagé de recruter 4000 assistants médicaux d'ici 2022 et de créer pour eux une formation spécifique.
Voilà, les négociations ouvertes la semaine dernière doivent durer 2 mois. Le PSG continue à se friser les moustaches en Ligue 1, 4-1 face à Rennes hier soir pour la 22e journée. Mais les joueurs et leur staff ont les yeux rivés sur le calendrier. La date du 12 février, 8e de finale aller de Ligue des Champions chez les Anglais de Manchester United. Et la présence de Neymar blessé au pied la semaine dernière est de plus en plus improbable. Ça va être super compliqué, concède le coach Thomas Tuchel. Enfin, voici les Kings du rock de Portland de retour avec un 10e album, les Dandy Warhols. Faites leurs 25 ans de formation. Si vous les connaissez, ça va vous plaire. Si vous ne les connaissez pas, il se peut que ça vous plaise aussi. C'est en tout cas Footrack et toujours très pop. Mathieu Culeron. Oh my lord,
you could drive a Ford. Malgré leur exubérance et leur ancienneté, les Dandy Warhols ont toujours su trouver des chemins de traverse. C'est le cas avec ce dernier disque qui va de la country psychédélique au rock synthétique. Un disque intitulé Why So Crazy, pourquoi aussi dingue, en référence au président des États-Unis, Peter, et le guitariste des Dandy Warhols.
Forcément, ça nous affecte. Et le titre du disque fait référence à l'état du monde actuellement. Small
town girls. Les Dandy Warhols sont tous des projets parallèles et travaillent même désormais à distance. C'est aussi ça le secret de leur longévité, Peter.
Avec les Dandy Warhols, tu n'as pas à trop réfléchir. Ça fonctionne toujours et je crois que tout le monde pense ça dans le groupe. On sait maintenant que les problèmes d'ego ne sont pas importants. C'est un peu comme dans une famille. Tu peux ne pas trop aimer ton frère, mais tu vas le supporter car c'est ton frère. C'est comme ça que je vois ce groupe. That's kind
of the way I see the band. Ce dernier disque des Dandy Warhols est réjouissant, étonnant, presque aussi dingue que les membres du groupe, qui semblent aujourd'hui plus décomplexés que jamais.
Why you so crazy, Nicolas ? C'est une question que je vous pose.
Très bonne question, effectivement, on la traduira pas.
Du nouvel album des Dandy Warhols.
Merci Florence Paracuelos.